Quand je vous...
c'est le temps, là, Vez, oui. Vas-y.
Quand je vous dis que l'émission se poursuit pendant la pause, vous avez maintenant la preuve que c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai. Fait qu'on lit, on lit texto pendant la pause. Vez me raconte sa journée de la veille, tu sais, puis... Comme si on était en onde, finalement, mais on s'est rendu compte des fois on est en onde, même quand on pense qu'on ne l'est pas.
Ah oui, ça fait que vous connaissez maintenant une partie de ma vie.
Vous savez que Vez fait des livraisons pour la poissonnerie Unimer. Alors, Marc, tu nous as parlé en onde aussi.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vraiment difficile de différencier ce qui se passe en onde puis hors d'onde.
Mais c'est juste que j'ai oublié d'utiliser ma grande force à la radio. Ma grande force, c'est quand je ferme mon micro.
Ouais, ta plus grande qualité à la radio.
Ouais, c'est ça. J'ai oublié de le faire.
C'est fermer le micro. Très bon. Très bon. 7h33, c'est un splendide dimanche en ce 17 mai 2020. C'est une très, très belle journée. Mais avant de tomber dans le dada de Vez, la météo, voici vos nouvelles avec Alexis Samson.
La cote de popularité de François Legault a explosé dans le contexte de la COVID-19. Le premier ministre du Québec a vu sa cote d'appréciation grimper de 30 % depuis décembre pour atteindre 81 % selon un sondage léger publié dans le Journal de Québec ce matin. C'est le meilleur score depuis plus de 20 ans pour un premier ministre du Québec, alors que Lucien Bouchard avait atteint un sommet de 75 % dans sa gestion de la crise du verglas. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, obtient pour sa part un score plutôt partagé, 52% qui ont une opinion positive contre 45% négative. Régis Labeaume, lui, est à 59% d'appréciation auprès de tous les Québécois, faut le mentionner. Un conducteur de Lévis lutte pour sa vie à l'hôpital après une embardée sur la route 279 à Saint-Gervais dans Bellechasse. L'homme dans la trentaine a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe avant d'effectuer les tonneaux et d'être éjecté de l'habitacle. Il était seul à bord, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Et si le lavage de mains est devenu à la mode ces temps-ci, il n'y a pas que des bons côtés. Les parents se plaignent que leurs enfants souffrent d'irritation une semaine après le retour en classe, selon ce qu'écrit le Journal de Québec. Un dermatologue suggère de laver ses mains à l'eau tiède et de garder les mains humides plutôt que les sécher là, avec du papier pour les irriter. La crème est aussi un incontournable.
C'est du soleil pour au moins les trois prochains jours. On va pas plus loin que ça pour l'instant, mais à Québec aujourd'hui, c'est du soleil. Quelques petits nuages avec 17 comme maximum. Du soleil demain avec 12 et du soleil encore pour mardi avec 17 comme maximum. À Saguenay, c'est un dégagement ce matin. Du soleil par la suite avec 13 comme maximum. Demain, alternance soleil-nuage avec 13 et du soleil mardi avec 18. Actuellement, c'est 10 à Québec et 6 à Saguenay.
Oh, ton micro n'était pas ouvert. Faut sur
ah, excusez.
Il est ouvert pendant les pauses, mais quand on est en onde, il l'est pas. J'avais très hâte de parler à notre prochaine invitée parce que elle sera en compagnie de Marina Orsini à la barre d'une des émissions qui en ce moment je pense à la télé québécoise, puis vous savez que j'en fais presque une maladie, je n'écoute un peu trop là. Et l'une des émissions les plus touchantes, une des émissions qui vient le plus te chercher là, en dedans là. Même les gars tough, là, les tough en moto avec des côtes de cuir, là, même vous autres, les gars, ça peut vous tirer une petite larme. Et c'est grâce à un travail journalistique incroyable qu'ils réussissent à rendre ce contenu-là. C'est l'émission Deuxième Chance. Monique Néron, journaliste, est aussi animatrice de cette émission. Salut, Monique.
Hey, salut à vous autres. Ça commence bien une journée, ça, d'entendre ça. Wow.
Là, tu parles-tu des compliments que je fais à l'émission ou bien de Vez qui a oublié de fermer son micro pendant la pause?
Un beau mélange de tout ça.
OK. Monique, je suis très content qu'on se parle ce matin parce que moi, j'ai été touché à maintes reprises par l'émission Deuxième Chance. Mais juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même page, explique-nous un peu pour les gens qui n'auraient peut-être pas encore vu l'émission. C'est quoi exactement le concept?
C'est une émission qui permet à des gens de retrouver quelqu'un, aussi simple que ça. Autrement dit, quelqu'un à qui ils aimeraient dire merci ou demander pardon, quelqu'un qu'ils ont perdu de vue souvent depuis des décennies ou enfin plusieurs années à tout le moins. Et ce sont des gens qui souvent ont tenté des recherches par eux-mêmes pendant un certain temps et ils sont incapable de localiser la personne, qui a fait souvent une très, très grande différence dans leur vie. Et c'est ça qui donne justement ces histoires tellement vraies, réelles, touchantes et authentiques. Donc, c'est pour ça que nous, on entre en scène à partir du moment où la personne est arrivée dans un cul-de-sac, finalement, et on donne un coup de main avec une équipe absolument formidable qui, je les regarde travailler là, depuis déjà plusieurs mois, sont capables de trouver quelqu'un à peu près n'importe où dans le monde et dans n'importe quel contexte. C'est très rare qu'on arrive comme aujourd'hui à une situation où on a à faire un appel à tous, parce que des fois, bon, il y a certaines situations qui le nécessitent, là, qui font qu'on n'a pas le choix, mais c'est arrivé très peu de fois. Ce qu'on fait ce matin dans l'histoire de Deuxième Chance.
Ouais, ça c'est bien particulier parce qu'effectivement, moi c'est ça qui m'a le plus impressionné, je vais dire, de l'émission Deuxième Chance, c'est que on s'attend. Je sais pas si c'est parce que ben on n'a pas vu ça souvent comme concept au Québec ou autre, mais tu sais de voir des journalistes puis Marina Orsini aussi qu'on connaît plus comme animatrice, mais de les retrouver en Russie, en Amérique du Sud, partout sur la planète. Être à la recherche, puis réussir à rencontrer des personnes, puis tu sais, de continuer à suivre des filons, puis il y a quelque chose de vraiment impressionnant là-dedans, dans ce rang-là, jusque dans des petits quartiers reclus au fin fond de je sais pas où, tu sais. C'est quand même vraiment impressionnant. Et là, ben aujourd'hui, on se parle, Monique, pour une histoire qui s'est passée à Québec.
Oui. Ça s'est passé à Québec et c'est pour ça justement qu'on fait un appel à tous ce matin. C'est vraiment important pour nous parce que ça pourrait faire toute la différence dans cette histoire-là. On a reçu, je vous explique brièvement, un témoignage vraiment touchant d'un camionneur qui cherche une jeune femme qui était entre la vie et la mort, quelque part, soit à l'hiver 75 ou 76. Essentiellement, à ce moment-là, il y a eu un grave incident qui a passé là, vraiment inaperçu, disons-le. Il n'y a pas de trace nulle part dans les journaux, par exemple, dans les médias à l'époque de ce qui s'est passé ce jour-là. La jeune femme en question qu'on recherche, ou on cherche évidemment à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec elle à l'époque, selon nos informations, elle était en route vers le collège François-Xavier Garneau. Donc, c'est une jeune étudiante, environ 18 ans, qui se rend à l'école ce matin-là. Et elle est passée sous le viaduc Saint-Sacrement. Ce viaduc-là est situé exactement à l'intersection de l'avenue Saint-Sacrement et du boulevard Charest. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que ça a beaucoup changé, ce secteur-là, puis il n'y a plus de viaduc. Mais à l'époque, il y en avait un. Elle marche donc pour se rendre à l'école sous le viaduc, et il y a une lame de glace et de neige qui s'est détachée du viaduc. La jeune femme a été ensevelie sous environ 200 à 300 kilos de glace et de neige, imaginez. Les médecins, les infirmières à l'époque ont dit que la pauvre jeune femme, elle était cassée de partout. L'expression qu'ils ont utilisée. Le camionneur qui la recherche, je vous dis, cet homme-là a un instinct que j'ai rarement vu dans la vie. S'il n'intervient pas, cette jeune femme-là n'aurait assurément pas survécu là, à ce moment-là. Il a joué donc un rôle vraiment très, très crucial dans son sauvetage ce jour-là. Et il n'a plus eu de nouvelles par la suite de la jeune femme en question.
OK, et c'est ce camionneur-là donc qui vous a contacté, ou en tout cas qui a pris contact avec l'équipe de recherche de l'émission et qui recherche donc cette jeune femme-là qui à l'époque avait 18 ans, c'est ça?
Oui, qui avait 18 ans, qui était étudiante au cégep FX Garneau. Est-ce qu'elle habitait dans le secteur? Bon, elle se rendait à l'école à pied, c'est tout à fait envisageable. C'est sûr que oui. Dans un monde idéal, si cette personne-là, ce matin, se reconnaît et qu'elle sait qu'elle a été elle-même victime de cet accident-là, c'est à cette jeune femme-là, à qui aujourd'hui sera âgée dans la soixantaine, on s'entend, à qui on aimerait parler. Cependant, il y a plein d'autres personnes qui ont pu être en contact avec cet événement-là et qui pourraient nous fournir des informations pertinentes. Je pense à des témoins. On sait qu'il y a eu des témoins qui se sont présentés sur place ce jour-là. Donc, il y a des gens qui ont des informations qui pourraient nous être pertinentes. Des policiers, des ambulanciers qui sont intervenus sur la scène aussi. Des amis qui étudiaient avec cette jeune femme-là à FX Garneau. Évidemment, des membres de sa famille peut-être aussi, des membres du corps professoral du cégep en 75-76 qui se souviennent de ce grave accident-là dont a été victime une de leurs étudiantes. Donc, il y a tout plein de gens qui peuvent nous donner... Imaginez, seulement son prénom à ce stade-ci pourrait faire une différence pour nous. C'est vous dire à quel point on a besoin de la population de Québec et des environs. Et on sait que vous êtes diffusé au Saguenay aussi. C'est formidable parce qu'on sait aussi qu'il y a énormément de gens qui souvent convergent vers Québec pour leurs études collégiales. Donc, c'est pas impossible que cette jeune femme-là a été originaire, par exemple, d'une autre région proche de Québec.
Ben, okay. Écoutez, simplifions la chose, là. On comprend que finalement, si vous avez le moindre souvenir de cet événement-là, de cet accident-là, et que vous connaissez de près ou de loin, ouais. Vous connaissez quelqu'un qui aurait pu être impliqué. Monique a donné de très bons exemples, là, que ce soit un enseignant du cégep à l'époque, un témoin qui s'est présenté, votre beau-frère du temps s'était présenté là-bas, il vous a déjà compté ça dans un souper. On veut la moindre information qui pourrait aider l'équipe de Deuxième Chance à retrouver cette personne-là. Dis-moi, Monique, déjà simplement à dire, si vous avez de l'information, vous pouvez nous écrire par texto au 25226.
Moi, je suis en contact avec une recherchiste de l'émission, puis je pense que je peux donner mon adresse de courriel en onde.
Oui, vas-y.
Pierre.Vézina, en commercial, fm93.com.
C'est assez simple.
C'est assez simple. Vous m'envoyez un petit mot, puis je vais transmettre l'information.
C'est que nous, en
pression... Il y a également, si je peux me permettre aussi, on peut nous rejoindre via le site de Radio-Canada aussi, si les gens cherchent d'autres façons, radiocanada.ca/deuxième chance. Et merci tellement à vous de permettre aux gens de vous appeler, de vous joindre et de les guider vers nous. Si vous saviez à quel point c'est apprécié, on souhaite tellement pouvoir retrouver cette femme-là. Puis ça va probablement, on le souhaite, être grâce à vous. Alors, on va être très, très reconnaissant de ce que vous faites pour nous et pour l'équipe ce matin aussi.
Imagine-moi comme fan de l'émission, Monique, si jamais à un moment donné cet épisode-là finit par déboucher sur quelque chose, puis qu'on apprend par la bande qu'une information vous est parvenue via l'appel à tous qu'on fait en ce moment. Moi, je peux prendre ma retraite, là. Moi, ça va, là.
Ça va être un accomplissement en soi. Et je peux raisonnablement dire, je pense, qu'il y aurait sans doute un extrait de ce qu'on est en train de faire ce matin qui se retrouverait dans l'émission.
Arrête-toi, je vais te gêner.
On peut penser que vous deviendriez, des acteurs de cet épisode-là.
On va envoyer notre CV comme recherche. Ouais.
C'est ça. Mais dis donc, Monique, par curiosité, est-ce que ça arrive souvent des histoires sur lesquelles vous vous penchez comme ça, mais qui donnent, tu sais, qui finissent pas en onde parce qu'il y a vraiment rien?
Il y a bien sûr des histoires qui ne finissent pas en onde. Il y en a beaucoup parce qu'on reçoit une quantité assez impressionnante de gens qui soumettent leur candidature, qui cherchent quelqu'un. Des cul-de-sac ou des non-réponses, là, ça arrive très, très peu souvent. L'équipe est exceptionnelle. C'est assurément, je peux le dire sans me tromper, là, une des équipes de recherche en télé les plus chevronnées qu'on a au Québec. Et c'est pas pour rien, justement, que ça donne des petits miracles. Parce que, disons-le, là, justement, parfois, on se dit comment on peut retrouver quelqu'un dans un autre pays avec autant de difficultés. Et puis, ils y parviennent. Et puis, bon... Dans la vie d'avant, là, celle où on avait encore le droit d'être ensemble, vous avez compris. Ouais. Je suis allée au quartier général à Radio-Canada et c'est comme une petite fourmilière. Là. C'est fascinant de les regarder travailler. L'équipe, une arrive avec une information qui fait avancer un petit bout. Et puis des fois, ils sont des mois à être arrêtés là, sur une information. Ça bloque et ça finit toujours par débloquer grâce à leur persévérance, faut dire, parce que sans doute qu'il y a beaucoup de gens qui abandonneraient rapidement, mais eux n'abandonnent jamais et c'est ça qui fait toute la différence. C'est le deuxième effort, le troisième, quatrième effort qu'ils vont mettre pour localiser une personne. Et ça arrive aussi souvent que c'est la personne qui cherche pendant des semaines, c'est pas la bonne. Fait qu'il faut recommencer à zéro, imaginez. Donc, c'est fascinant de regarder travailler. Vous avez bien raison de dire que ces émissions-là sont importantes et touchantes. C'est pas pour rien quand on voit justement le travail, tout le travail qu'il y a derrière.
Merci, Monique, d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin. Puis on essaye de faire aller nos réseaux pour trouver la personne que vous cherchez.
Merci infiniment. Merci à vous et bon dimanche à tout le monde.
Merci, salut, bye. Monique Néron, journaliste et animatrice de l'émission Deuxième Chance à Radio-Canada. Simplement rappeler, là, si jamais vous venez de vous joindre à nous, pour l'émission Deuxième Chance, que vous connaissez peut-être, là, où on tente de réunir des personnes pour X, Y raison, que ce soit quelqu'un qui veut pardonner à une autre personne ou des gens qui sont perdus de vue à travers les années, qui veulent se retrouver, on cherche une personne, une femme qui, autour des années 75-76, avait 18 ans, et elle a été victime d'un accident à l'époque où, à l'intersection de Saint-Sacrement et Boulevard Charest, il y avait un viaduc.
OK.
Moi, j'ai pas le souvenir
moi
de ça.
Moi non plus, mais c'est peut-être sur Saint-Sacrement, plus bas, là où il y a un... La voie ferrée passe, puis on passe en dessous.
Ah, peut-être.
C'est
entre Saint-Sacrement et Amel.
Oui, peut-être. Ouais. Ou plus loin sur Charest, là.
Ah, ben entre Saint-Sacrement et Amel, il y en a
un là.
Oui, c'est ça. Ben, c'est une voie ferrée qui passe au-dessus.
Puis il y en a un plus loin aussi, comme Vest disait, plus loin sur Charest, donc vers le centre-ville.
Ouais. Mais c'est en 75, fait que tu sais, ça fait quand même. Vest, t'es né en quelle année, ça se dit-tu?
Bien avant ça.
En tout cas, peu importe.
Vest, il était déjà vieux à l'époque.
Ben, pas vieux, là. Tu dois avoir 20.
J'avais
15 ans. 15. Ben, 15 ans. C'est 15 ans, il peut avoir un viaduc, puis on s'en souvient plus, là. Y a-tu déjà juste des gens qui se souviennent qu'il y a un viaduc à ce place-là? Mais bref, ça pour dire que c'est ça. Donc, une jeune femme qui avait 18 ans à l'époque, qui étudiait au cégep Garneau et qui aurait été victime d'un accident dans ce secteur-là en passant sous un viaduc, une quantité impressionnante de neige et de glace lui serait tombée dessus. Victime de plusieurs blessures très graves. Et un camionneur qui passait par là l'a secouru. Et on est à la recherche de la victime de cet accident-là. Donc, de la femme qui serait âgée dans la soixantaine aujourd'hui et qui aurait reçu cette espèce de tas de neige-là, qui aurait été blessée à plusieurs endroits. Si vous avez des informations, il y a plusieurs façons de nous les faire parvenir. Par texto tout de suite pendant l'émission, là, si vous l'avez maintenant, là, vous pouvez appeler Alexis. Sinon, pierre.vezina@commercialfm93.com. Vez est en contact avec une recherchiste de l'émission. Et puis, ben, si vous avez envie de cliquer à gauche à droite sur le site de Radio-Canada aussi, vous êtes capable de retrouver là, sûrement la page de l'émission puis comment contacter les recherchistes. Ouais. C'est toutes des bonnes...
Puis on va publier un truc sur la page Facebook du FM93 aussi là, pour vous permettre de mettre un commentaire si vous avez des informations là-dessus.
Exact. C'est toutes des bonnes façons de nous contacter. Courte pause, on revient.
Que Québec se lève.
De retour après la pause.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Ouvert en tant que service essentiel. Problème de pied, de genou.